الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Brochure informative Doa d'Attar Au Seigneur de Mustapha Quiconque lit ou écoute cette collection de 36 pages de brochure informative pardonne-lui sans avoir à rendre de compte et permet-lui de passer sa vie à accomplir de bonnes actions. Aussi, permet-lui de transmettre l'appel à la droiture partout dans le monde. Amin, bijahin nabijil amin, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Bénédiction d'envoyer la salade sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith du dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué un jour, « Il n'y a pas de musulman qui récite la salade sur moi » sans que les anges ne lui envoient la salate aussi longtemps qu'il récite. Il appartient maintenant à un serviteur d'augmenter la quantité de salate qu'il récite ou de la diminuer. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Comment le moi charnel, le nafs, peut vous piéger? Saïd Abu Muhammad Murtaish rahmatullah alayhi dit « J'ai effectué le hajj plusieurs fois. À certaines de ces occasions, je l'ai fait sans aucun bagage ni effet de voyage. La réalité de tout cela est finalement devenue évidente pour moi. J'étais trompé par mon nafs tout le temps. Je m'en suis rendu compte quand ma mère m'a un jour ordonné de remplir un bol d'eau et de le lui apporter. Bien que j'ai effectué le hajj à plusieurs reprises, cette instruction a pesé lourd sur mon nafs, ce qui m'a fait ne pas vouloir le faire. Par conséquent, j'ai réalisé que mon nafs n'avait agi conformément à mes souhaits pendant tout ce temps que pour réaliser ses propres désirs et tirer un plaisir personnel du voyage pour le hajj. Il avait réussi à me tromper, car si mon nafs et ses désirs étaient anéantis, il n'aurait pas trouvé difficile à remplir ne serait-ce qu'un seul droit de la charia, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu de mal à obéir à ma mère. La poursuite périlleuse de la renommée mondiale. Chers frères en islam, cet incident met en évidence de nombreuses facettes importantes de la discussion. Tout d'abord, observez le bel état d'esprit de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, lorsqu'il s'agissait de questions islamiques, ainsi que leur incalculable degré d'humilité. D'un autre côté, certaines personnes font preuve d'humilité extérieure lorsqu'elles rencontrent les autres. Bouillonnantes d'énergie, elles parlent et se comportent extrêmement bien devant eux, essayant minutieusement de paraître aussi sympathiques que possible. Ces personnes sont alors très en dessous lorsqu'elles montrent le même niveau de décorum avec leurs parents, frères, sœurs, enfants ou membres de la famille. Leur bonne conduite passe alors par la fenêtre et ils deviennent agressifs, blessant grossièrement le cœur de tous ceux avec qui ils interagissent. Pourquoi cela arrive-t-il, demanderez-vous? La raison en est simple. En affichant une bonne moralité à l'extérieur de la maison en public, une personne devient acceptée et aimée. Elle est sujette à la renommée et devient recherchée. Parallèlement à cela, afficher un bon caractère à la maison ne porte aucun espoir implicite de gagner la renommée ou l'acceptation des masses. Portant en eux ces espoirs mal placés, de nombreuses personnes semblent vertueuses mais leur réalité est un contraste frappant. De la même manière, certains frères en islam s'efforcent ardemment d'accomplir des actions qui sont simplement aimées, c'est-à-dire mustahab, dans la charia, faisant de grands sacrifices à cette fin, mais ne sont nulle part en vue de l'accomplissement des obligations, les fard, et actions nécessaires, les wajib. Ils peuvent faire preuve de négligence en obéissant à leurs parents, en élevant leurs enfants conformément à la charia, ou en recherchant des connaissances qui leur sont obligatoires d'apprendre. Le récit de Saïd Abu Muhammad Murtaish rahmatullah alayh comporte de nombreuses leçons importantes pour ces personnes. En raison de leur soif de renommée mondaine, ces personnes trouvent qu'il est facile d'accomplir toute bonne action qui est reconnue publiquement ou qui les amène à être loués par les gens. Soudain, parcourir des voies spirituelles et accomplir des actes d'adoration extrêmement ardus devient facile pour eux, car leur poursuite de la renommée l'emporte sur toutes leurs intentions. Rappelez-vous toujours qu'il n'y a que destruction dans cette tentative. Pour mieux comprendre la gravité de ce sujet, deux hadiths du dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam sont inclus ci-dessous. La première, évitez de joindre l'obéissance à Allah Azza wa Jal avec l'amour d'être loué par les gens, de peur que vos actions ne soient ainsi ruinées. La deuxième, deux loups affamés dans un troupeau de moutons ne sont pas plus destructeurs que l'avidité d'un homme pour la richesse et la renommée ne l'est pour sa foi. Madni perle de connaissances concernant la renommée mondaine. Imam Ghazali, rahmatullah alayh, discute de la renommée mondaine dans le troisième volume de son ouvrage Ihya'ul Ulum. Avec de légers ajouts, un résumé de ce qu'il a écrit est présenté ci-dessous pour le lecteur. L'envie de gloire et d'ostentation mondaine font partie des dernières questions qui conduisent à la corruption du nafs. La racine de ceci se trouve dans la déviance interne et la tromperie intérieure. Qu'ils soient érudits ou fervents adorateurs, tous ceux qui cherchent à surmonter les stations de l'au-delà peuvent en être affligés. Une personne, au moyen de ses efforts, peut être capable d'accomplir des actes d'adoration. Elle peut se restreindre des désirs charnels et même s'abstenir de s'impliquer dans tout ce qui porte le moindre doute d'être inadmissible. De plus, elle peut empêcher totalement son corps d'être utilisé pour des activités pécheresses de toutes sortes. Pourtant, elle révélera toujours toutes ses réalisations religieuses et ses bonnes actions aux gens, cherchant à réconforter son nafs en disant « J'ai fait ceci et cela, j'ai fait des discours ici et là, j'ai autant de dates réservées pour des discours, je me suis levé tard la nuit dernière en raison d'une madani réunion et j'ai donc la voix fatiguée. Je voyage actuellement avec un madani kafila. J'ai voyagé avec tant de madani kafila. J'ai été dans tant d'endroits pour le travail religieux, et ainsi de suite. » En faisant connaître publiquement leurs connaissances et leurs actions, ils cherchent à être acceptés par les gens et à recevoir leur respect. Le plaisir d'être loué est trop doux pour qu'ils le déclinent. Lorsqu'ils commencent à être célèbres, ils veulent que le plus possible de leurs connaissances et de leurs actions soient affichées afin de gagner autant d'admiration que possible de la part des gens. Au fur et à mesure que leur recherche de moyens d'exposer leurs vertus et leurs compétences augmente, ils oublient totalement leur généreux créateur et ne suffisent pas en ce qui concerne leur seigneur sachant. C'est-à-dire, ils ne restent pas satisfaits de savoir qu'Allah Azza wa Jal les regarde et qu'il est pleinement conscient de leurs actions, leur accordant une récompense en retour. Au lieu de cela, le désir de renommée mondaine les a aveuglés. Les louanges des gens plaisent à leur cœur sans fin, mais ils ne prêtent aucune attention aux louanges qu'ils reçoivent d'Allah Azza wa Jal lui-même. Le nafs est pleinement conscient que si les gens savent qu'une telle personne accomplit de bonnes actions, telles que rejeter ses désirs charnels, s'abstenir d'activités douteuses, faire abondamment des dons dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, s'efforcer d'accomplir des actes d'adoration, pleurer dans la crainte d'Allah Azza wa Jal et l'amour de son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, travaillant dur pour répandre l'islam, faisant preuve d'un caractère impeccablement bon, rectifiant les autres avec amour, voyageant dans les madani kafila et faisant en sorte que les autres fassent de même, s'abstenant d'abuser de la langue et des yeux, ne mangeant pas trop, enseignant et lisant des livres islamiques, donnant des dars de Fezan et Sunnat, participant au Madrasat al-Madina, réveillant les autres pour la prière de Fajr, cela incitera les gens à louer l'auteur. Ils le traiteront avec estime et honneur. Ils considèrent que rencontrer une telle personne est un privilège et un moyen d'améliorer leurs affaires dans l'au-delà. Ils considèrent que les conseils de cette personne sont la voie du succès dans les deux mondes. Cela ne s'arrête pas là. Ils peuvent inviter cette personne chez eux comme bénédiction et afin d'accumuler les richesses de l'au-delà, lui demander de faire doa, lui offrir de la nourriture et des boissons, lui faire le salam, lui offrir leur service, désirer manger ses restes de nourriture, s'efforcer d'obtenir un cadeau de lui, ou même garder tout ce qu'il a touché en leur possession, embrasser tout ce qu'il leur donne, ou même embrasser ses mains et ses pieds. Encore une fois, cela ne s'arrête pas là. On fera appel à une telle personne avec un titre honorifique et des appellations. Ils lui parleront doucement par respect, lui demanderont de faire doa avec humilité, se mettront debout pour lui quand il entre dans un rassemblement, le feront asseoir à une place distinguée, croiseront les mains devant lui, ne commenceront pas à manger devant lui, lui offriront des cadeaux, se considéreront comme serviteurs ou inférieurs à une telle personne, lui offriront des rabais lors d'achat, lui offriront des choses luxueuses à bas prix ou totalement gratuites, ou par respect, s'abaisseront dans tous les domaines lorsqu'ils traiteront avec lui. L'affichage d'une telle affection de la part des masses est en effet quelque chose dont le nafs tire un plaisir extrêmement grand qui domine tout autre désir. Lorsqu'une personne est soumise à un tel respect, et adoré par les gens, il devient alors d'une simplicité trompeuse pour eux d'éviter les péchés. La poursuite de la renommée mondaine a signifié que leur nafs, au lieu d'inciter à commettre des péchés comme d'habitude, recommandera désormais d'éviter complètement les péchés. C'est parce qu'en commettant des péchés en public, une personne perdra la fausse position de respect qu'elle a gagnée auprès des gens et ainsi perdra sa renommée. Celui qui obéit à son nafs à cet égard affrontera des difficultés extrêmes pour accomplir des actes d'adoration et trouvera soudainement la qualité recherchée de fermeté qui s'offre à lui. Il possède une connaissance interne de ses désirs et de la joie provoquée par le fait d'être un objet d'affection, supposant à tort qu'il a vécu sa vie pour Allah Azza wa Jal et y a recherché son plaisir. En réalité, il a vécu sa vie à la poursuite de désirs cachés, aspirer à la renommée mondaine et plaire à son nafs. Une illusion que même les esprits les plus saints ne peuvent pas comprendre. Il se considère comme un adorateur pieux et quelqu'un qui s'abstient du haram. Avec les faux-semblants dont il s'est paré, il tire un plaisir personnel de tout ce qui a été mentionné précédemment. La grande renommée et le respect qu'il éprouve est quelque chose qui lui plaît sans fin. La récompense de l'adoration et des bonnes actions est alors perdue et une telle personne est considérée comme une hypocrite, alors qu'elle se considère comme proche d'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad. 39 intentions avant de parler à quelqu'un au téléphone ou en personne. Faites quelques-unes de ces intentions en fonction de votre situation respective. Numéro 1. Je garderai mon regard baissé autant que possible. Numéro 2. Je ferai le salam en premier avec de bonnes intentions. Numéro 3. Je répondrai au salam qui m'est fait. Numéro 4. Je vais réciter Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad. Numéro 5. J'ai l'intention de m'enquérir de l'état de santé de la personne que je rencontre. Numéro 6. Lorsqu'on me demande comment je vais, j'ai l'intention de louer Allah Azza wa Jal en réponse. Numéro 7. J'ai l'intention de répondre aux éternuements des autres s'ils louent Allah Azza wa Jal après avoir éternué. Numéro 8. Si j'éternue, dis les louanges d'Allah Azza wa Jal et que d'autres personnes répondent, j'offrirai une autre réponse en retour à la leur. Numéro 9. J'agirai en accord avec Anzilun Nasa Manazilahum. Numéro 10. Je vais garder à l'esprit Kallimun Nasa ala Qadri Uqulihim. Numéro 11. Je vais réfléchir avant de parler. Numéro 12. En utilisant un langage respectueux, je parlerai d'un ton courtois. Numéro 13. J'ai l'intention d'agir selon la sunna du sourire pendant que je converse. Numéro 14. J'éviterai les déclarations inutiles. Numéro 15. J'ai l'intention d'éviter de parler fort. Numéro 16. J'ai l'intention de ne pas utiliser de mots moqueurs. Numéro 17. Je n'élèverai pas d'objections inutiles au discours de l'autre. Numéro 18. Si la personne à qui je parle se met en colère, je lui répondrai avec douceur. Numéro 19. J'ai l'intention d'éviter une conversation d'une durée aussi longue qui amène l'autre personne à faire face à des difficultés. Numéro 20. Je choisirai mes mots avec soin et parlerai le moins possible. Numéro 21. Pendant la conversation, je ne vais pas mentir ni exagérer les choses. Numéro 22. Je ne serai pas d'accord avec tout ce que l'autre personne dit sans réfléchir attentivement à ce qu'elle a dit. Numéro 23. J'éviterai de faire semblant et de louer l'autre personne pour le plaisir de le faire. Numéro 24. J'écouterai les autres en silence. Numéro 25. Je ne les interromprai pas. Numéro 26. Lorsque j'entends et comprends clairement ce qu'ils ont dit, j'éviterai de demander « Qu'avez-vous dit ? Excusez-moi » ou « Pouvez-vous répéter cela ?» etc. J'éviterai également tout geste leur signalant que je n'ai apparemment pas compris. Numéro 27. J'éviterai de critiquer des questions politiques ou de parler de politique. Numéro 28. Lorsque je prends conscience qu'on parle mal de quelqu'un qui n'est pas présent, je considérerai les définitions de la médisance et de la fausse accusation. Numéro 29. Je m'abstiendrai de médire et de raconter des histoires ou d'écouter l'un ou l'autre. Numéro 30. Je dirai « Toubou ilallah » partout où c'est nécessaire. Numéro 31. J'inviterai à la droiture là où c'est nécessaire. Numéro 32. S'il est possible d'inviter l'autre personne à la droiture en personne, j'écrirai si possible quelque chose ou j'utiliserai des gestes à cette fin. Numéro 33. Je ne m'impliquerai pas dans des disputes. Numéro 34. J'ai l'intention de m'abstenir de tout ce qui cause de la douleur au sentiment de l'autre personne. Numéro 35. S'il m'apporte de bonnes nouvelles, je les féliciterai. Numéro 36. S'il m'exprime des inquiétudes, je ferai de mon mieux pour les aider. Numéro 37. J'ai l'intention de demander à la personne avec qui je converse de transmettre mon salam aux autres. Numéro 38. J'ai l'intention de demander à la personne avec qui je converse de faire droit pour mon pardon sans avoir à rendre de compte. Numéro 39. J'ai l'intention de faire le salam quand nous nous séparerons. Directive importante pour les foyers musulmans. Tout d'abord, observons deux hadiths bénis du dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 1. Lorsque vous devez répondre à l'appel de la nature, ne faites pas face à la Qibla et ne lui tournez pas le dos. Numéro 2. En répondant à l'appel de la nature, si quelqu'un ne fait pas face à la Qibla ni ne lui tourne le dos, une bonne action est alors écrite pour lui et un péché est effacé. Lors de la construction d'un bâtiment, si les architectes et les constructeurs agissent conformément aux directives suivantes avec de bonnes intentions, ils peuvent gagner beaucoup de récompenses. Numéro 1. Lors de la construction d'un WC, les toilettes doivent être installées de manière à ce que le visage ou le dos de la personne soit tourné à 45 degrés de la Qibla, bien que 90 degrés offrent beaucoup plus de facilité et de commodité. Pour plus de précision, considérez les directions vers lesquelles une personne tourne son visage lorsqu'elle offre le salam aux deux côtés à la fin de la prière. Les toilettes doivent faire face à l'une de ces deux directions. Il est mentionné dans Dulul Muhtar, un célèbre ouvrage de la jurisprudence hanafite, faire face à la Qibla ou lui tourner le dos en réponse à l'appel de la nature est inadmissible et haram. Numéro 2. Les mêmes directives données ci-dessus doivent être observées lors de l'installation d'une douche. De cette façon, une personne nue prenant une douche peut éviter de faire face ou de tourner le dos à la Qibla. L'imam Ahmad Reza Khan, rahmatullah alayh, dit « Faire face à la Qibla dans un état de nudité est détesté et contre les manières prescrites. » Numéro 3. Le lit d'une personne doit être positionné de manière à ce que ses pieds ne fassent pas face à la Qibla pendant son sommeil. La direction des pieds doit être maintenue à au moins 45 degrés de la Qibla. Il est mentionné dans Fatawa Shami, délibérément orienter les pieds vers la Qibla est légèrement détesté, c'est-à-dire makruh tanzihi. Numéro 4. Si par exemple les toilettes, la douche ou le lit sont mal positionnés, de sorte qu'une personne nue sous la douche ou une personne répondant à l'appel de la nature tourne le dos à la Qibla ou lui fait face, où les pieds d'une personne endormie lui font face, quoi qu'il en soit, ils devront garder ce problème à l'esprit et l'éviter autant que possible. Lorsqu'ils se douchent nus ou utilisent les toilettes, ils doivent faire de leur mieux pour éviter de faire face ou de tourner le dos à la Qibla. De même, lorsqu'ils dorment, ils doivent éviter de pointer leurs pieds vers la Qibla. Invitation à la droiture. Abrégé. Nous sommes les esclaves pécheurs d'Allah Azza wa Jal et les dévots de son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Pas de doute, la vie est très courte. Nous nous rapprochons de la mort à chaque instant qui passe. Bientôt, nous serons enterrés dans une tombe sombre. Notre succès réside dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal et dans l'application de la sunna du dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dawat Islami, un mouvement religieux des dévots du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à un Madini Kafla qui se rend à la mosquée Intel qui se trouve à tel endroit. Nous sommes venus répandre la bonté et la connaissance islamique au loin. Il y a même un dars qui se déroule dans la mosquée au moment où nous parlons. Veuillez vous rendre au dars maintenant si possible. Nous sommes venus pour vous accompagner et recevoir des bénédictions de votre compagnie. Allons-y ensemble. Si les participants ne sont pas prêts, dites « Si vous ne pouvez pas venir tout de suite, alors accomplissez la prière de Maghrib là-bas. » Après la prière, il y aura un discours inspiré de la sunna, Insha'Allah. S'il vous plaît, écoutez ce discours et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous bénir avec la bonté de ce monde et de l'au-delà. Amin. Qui est le plus excellent parmi tous? Une fois, le dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était assis sur son pupitre sacré. Un compagnon demanda, « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus excellent parmi tous ?» En réponse, il expliqua, « Le plus excellent de tous est celui qui récite le Coran en grande quantité, celui qui est le plus pieux, celui qui ordonne le plus la vertu et interdit le plus le mal, et celui qui entretient des liens, c'est-à-dire des liens de parenté entre les membres de la famille, le plus. » 17 Madni perles de connaissances liées à l'imama. Tout d'abord, observons 6 hadiths bénis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 1. Deux unités de prière accomplies avec un imama sont supérieures à 70 unités de prière accomplies sans. Numéro 2. Avoir un imama sur le chapeau est la différence entre nous et les polythéistes. Le jour du jugement, un musulman se verra accorder une lumière pour chaque tour de l'imama qu'il a noué autour de sa tête. Numéro 3. Allah et ses anges envoient la salat sur ceux qui portent l'imama le jour du vendredi. Numéro 4. La prière accomplie avec un imama est égale à 1000 vertus. Numéro 5. Un jumu'ah accompli avec un imama équivaut à 70 accomplis 100. Numéro 6. Les imamas sont les couronnes des Arabes. Alors attachez-le et votre dignité augmentera. Celui qui noue un imama gagnera une vertu pour chaque tour. Le volume 16, page 303 de Bahar al-Shariat déclare « Attachez un imama en position debout et mettez un pantalon en position assise. Quiconque fait le contraire, c'est-à-dire attache un imama en position assise et met un pantalon en position debout, sera affligé d'une maladie pour laquelle il n'y a pas de remède. » Numéro 8. Il convient que le premier tour de l'imama soit attaché sur le côté droit de la tête. Numéro 9. L'imama du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait un shimla qui venait sur son dos béni. Il arrivait parfois sur le côté droit de son corps béni. À certaines occasions, il y avait même deux shimlas qui pendaient entre ses omoplates bénies sur son dos. Avoir le shimla sur le côté gauche du corps est un acte contraire à la sunna. Numéro 10. La largeur du shimla doit être d'au moins 4 doigts ou d'une largeur de la main au maximum, et il doit atteindre environ le milieu du dos lorsqu'il est suspendu. Numéro 11. Attacher l'imama debout et face à la qibla. Numéro 12 et 13. Selon la sunna, l'imama ne doit pas mesurer moins de 2,5 mètres de long, ni plus de 6. Il devrait être attaché pour ressembler à la forme d'un dôme. Numéro 14 et 15. Si un mouchoir est assez grand pour être enroulé plusieurs fois autour de la tête et la recouvrir, il sera considéré comme un imama. Il est déconseillé d'utiliser un petit mouchoir à partir duquel seulement un ou deux tours peuvent être noués autour de la tête. Numéro 16. Plutôt que de retirer entièrement un imama lors de son retrait, dépliez-le tour par tour. Numéro 17. Allama Abdul Haq Muhaddis Dehlvi Rahmatullah Alayhi dit Dastar Mubarak an Hadrat sallallahu alayhi wa sallam dar aksar safed budo gaye siya ahyanan sabz. Ce qui signifie l'imama du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était principalement blanc et parfois noir ou vert. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Le nom de l'imama béni du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allama Yusuf Nabhani rahmatullah alayh explique comment le dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé son imama et dit « Le nom de l'imama du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était Sahab, qu'il a donné à Sayyidina Ali radiyallahu anhu. 30 madni perles de connaissance pour les imams travaillant dans les mosquées. » Le dernier prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous doit donner l'azan. » et les récitants doivent diriger les prières. L'imam Ahmad Reza Khan, rahmatullah alayhi, dit « La prière est un acte d'adoration important que l'on trouve dans l'islam. De nombreuses précautions sont nécessaires lors de son exécution. Telle est sa sensibilité. Les honorables érudits ont même déclaré la prière invalide si de nombreuses facettes sont exécutées correctement, mais une seule facette est incorrecte. » Il dit en outre un imam devrait être quelqu'un qui atteint correctement la pureté, qui récite correctement, un sunnite avec des croyances correctes et celui qui ne pêche pas ouvertement. De plus, il ne doit rien avoir en lui qui amène les adeptes de la prière à le mépriser intérieurement et il doit être conscient des règles relatives à la pureté ainsi qu'à la prière. L'une des meilleures façons de servir l'islam et de gagner sa subsistance consiste à travailler comme imam dans une mosquée. Sachez toutefois qu'un imam est directement responsable de la prière des disciples. S'il dirige les prières de manière incorrecte, il devra porter le poids de toutes ces prières inappropriées, ce qui peut éventuellement le conduire à l'enfer. Il est absolument obligatoire pour un imam d'être au courant des décisions relatives à la pureté, à la prière et à d'autres choses connexes. Si possible, suivez une formation d'imam au Madani Markaz de Fezzan et Medina à Karachi. Si cela ne peut pas être fait, suivez la même formation partout où vous le pouvez, car les connaissances qu'elle contient sont extrêmement importantes pour tous les futurs et actuels imams. Alhamdoulillah, le département des imams a également lancé une formation d'imams de 5 mois et un cours d'apprentissage du Coran de 10 mois. Numéro 1. Lisez et comprenez les quatre premières parties de Bahar al-Shariat et suivez les conseils des érudits des Ahl Sunnah. Numéro 2. Les chapitres du Coran et autres litanies récitées durant la prière doivent être lus à un récitant sunnite et vérifiés. Cela peut également être fait via le département de test de Davat-e Islami. Numéro 3. Si possible, devenez un imam sans salaire, Inch'Allah, car c'est un énorme moyen de prospérité dans ce monde et dans l'au-delà. Cela ne devrait être fait que s'il n'y a pas de soucis financiers pour la personne. Sayyiduna Abu Huraira, radiyallahu anhu, dit « L'imam et le muazzin ont une récompense égale à tous ceux qui ont prié avec eux. » Numéro 4. Sans raison sérieuse, il ne convient pas de demander une augmentation de salaire. Numéro 5. Quitter une mosquée pour une autre, juste pour une augmentation de salaire, n'est pas digne de la noblesse d'un imam. Numéro 6. Ne prenez pas de prépaiement pour votre salaire si possible. De plus, n'acceptez aucun paiement avant le premier jour de votre emploi désigné, car on ne sait pas quand la vie prendra fin et si une personne devra en rendre compte. Numéro 7. Évitez de demander de l'argent ou de demander des prêts. Numéro 8. Certains imams préfèrent être appelés khatib de nos jours. Et certains muazzins aiment plutôt être appelés deuxième imam. Ceux qui aiment vraiment l'imam des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ne se sentent pas honteux de s'appeler imam. Et ceux qui aiment son muazzin, Sayyiduna Bilal, radiyallahu anhu, ne se sentent pas honteux d'être appelés muazzin. Numéro 9. Intérieurement et extérieurement, habillez-vous avec piété, abstinence et conscience divine. Continuez à vous abstenir de mentir, de médire et d'autres péchés. Si vous ne le faites pas, vous aurez honte dans l'au-delà et les gens penseront du mal de vous dans cette vie. Numéro 10. Parler de façon excessive, rire fort et plaisanter diminue la dignité d'une personne. Ne perdez pas la formalité entre vous et les muqtadis, sinon les manières requises entre vous diminueront. Numéro 11. Il n'y a que destruction dans la poursuite de la renommée et de l'estime mondaine. Évitez de courir après cela à tout prix. Numéro 12. Si un imam est amical, c'est en soi un excellent moyen de rapprocher les gens de l'islam. Rencontrez des gens après la prière et restez avec eux pendant un certain temps par la suite. Ne parlez pas des problèmes du monde cependant. Ne parlez que des questions islamiques et faites-le d'un ton calme et doux. De cette façon, les autres qui font la prière ne seront pas dérangés. Numéro 13. Les gens s'éloigneront d'un imam qui n'est pas sociable ou amical. Reste éloigné des gens ou ne rencontre que les personnes avec un turban et une barbe. Des difficultés peuvent survenir lors de la conduite des prières et les gens peuvent refuser de coopérer. Numéro 14. Soyez aimant et gentil avec le muazzin et ceux qui s'occupent de la mosquée. Au lieu de leur donner des ordres, considérez cela comme une bonne occasion de vous impliquer dans leur travail. Nettoyez les parties de la mosquée et éteignez vous-même les lumières inutiles. Numéro 15. Aidez ceux qui s'occupent de la mosquée à nettoyer également la zone d'ablution. Inch'Allah, vous recevrez une immense récompense et créerez une atmosphère aimante. Numéro 16. Ne créez jamais de tension entre l'administration de la mosquée. Soyez gentil et bien élevé envers eux et invitez-les à voyager lors d'un madani qafila de 3 jours. Numéro 17. Ne ruinez pas les relations entre les imams ou les administrations sunnites. Ne les opposez pas à vous en les critiquant. Si, par exemple, vous faites une erreur, demandez immédiatement pardon. Si quelqu'un commet une erreur shari, corrigez-le et conseillez-le avec gentillesse. Numéro 18. Établissez de bonnes relations avec les imams et les comités des mosquées voisines. Rapprochez-les de Davat-e Islami et invitez-les à voyager chaque mois lors d'un madani qafila de 3 jours. Numéro 19. À l'occasion du Jumu'ah et des deux Eid, lisez les khutbas de l'imam Ahmad Reza Khan rahmatullah alayh. Le centre de recherche islamique, qui fait partie de Davat-e Islami, a compilé et publié ses khutbas dans le livre Fezane Khutbate Razaviya. Numéro 20. Le jour du Jumu'ah, la plupart des gens arrivent au début du khutbah. Il est donc nécessaire de garder à l'esprit la nature des personnes. Par exemple, établissez la prière en congrégation à l'heure indiquée et assurez-vous que le discours est engageant et intéressant. Le discours doit également inclure des mots simples. En gardant à l'esprit la narration suivante, ne parlez pas de sujets difficiles. كَلِّمِ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ أُقُولِهِمْ C'est-à-dire, converser conformément à l'intellect du peuple. Habituellement, les gens préfèrent écouter les événements des Awliya rahimahumullah et l'apprentissage de la Sunna. Donner aux gens l'état d'esprit de se préparer pour la tombe et l'au-delà. À la fin du discours, encourager tout le monde à se renseigner sur la Sunna en voyageant dans un Madini Qafila. Les imams affiliés au département des imams de mosquée doivent prononcer un discours tiré du livret hebdomadaire. Numéro 21. Si les haut-parleurs sont éteints avant de commencer le discours, la khutba, la doa, etc., approchez le microphone de votre bouche avant de l'allumer. Sinon, il y aura beaucoup de bruit de fond désagréable. Numéro 22. Les savants d'Al-Sunna devraient s'abstenir de parler de questions sur lesquelles il y a une divergence d'opinion. Numéro 23. Si vous êtes un érudit talentueux, donnez quotidiennement un dars du Coran, de Kanzul Iman et Tafsir Siratul Jinan. Et si vous êtes qualifié pour le faire, donnez également des dars de hadith. Numéro 24. Lorsque vous vous référez à vous-même avec des mots d'humilité, regardez l'état de votre cœur. Ne soyez pas la proie du mensonge et de l'ostentation. Numéro 25. Prenez l'habitude de préparer le dars avant de le délivrer. Numéro 26. Avec d'autres livres de connaissances islamiques, lisez Husamul Haramain, Riaul Ulum, Minajul Abidin, etc. Numéro 27. Prenez l'habitude de délivrer ou d'écouter quotidiennement un dars de Fezane Sunnat. Numéro 28. Une invitation porte à porte à votre mosquée locale devrait avoir lieu chaque semaine. Assurez-vous d'y participer et soyez témoin de ses bénédictions. Numéro 29. Prenez l'habitude de voyager chaque mois en Madini Qafila de 3 jours. Inch'Allah, vous serez témoin de ses bénédictions. Numéro 30. Tenez-vous responsable en remplissant quotidiennement le livret des actions pieuses, Nek Amal. Soumettez le livret à un frère responsable du département Islah-e Amal lorsqu'un nouveau mois commence. Inch'Allah, votre piété augmentera en même temps que votre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Protection contre les terreurs du jour du jugement. Sayyidina Abdullah bin Omar radiallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura trois catégories de personnes qui seront en sécurité le jour du jugement. Ils seront sur des monticules de musc, de sorte qu'ils seront libres de toute responsabilité. La première, celui qui récite le Coran pour le plaisir d'Allah et conduit les gens dans la prière. Les gens sont contents de lui aussi. La deuxième, celui qui invite les autres à la prière pour l'agrément d'Allah, c'est-à-dire le muezzin. La troisième, l'esclave qui a apporté le bonheur à son seigneur et maître mondain. Le bien qui vient des calamités et 20 remèdes spirituels. Voici trois récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 1. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni chagrin, ni tristesse, ni blessure, ni détresse n'arrive à un musulman, même s'il s'agit de piqûres d'épines, mais qu'Allah expie certains de ses péchés pour cela. » Numéro 2. Lorsque les personnes affligées de difficultés seront récompensées le jour du jugement, les personnes qui vivaient dans l'aisance souhaiteront que leur peau fût coupée avec des couteaux dans le monde. Numéro 3. Quiconque est malade pendant une nuit, reste patient et reste satisfait de la volonté d'Allah, il sera exempt de péché comme le jour où il est né. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité Umme Seb et a dit « Pourquoi frissonnez-vous ? » Elle a répondu « C'est de la fièvre et qu'elle ne soit pas bénie par Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne dites pas du mal de la fièvre, car elle expie le péché des enfants d'Adam comme une fournaise enlève les impuretés du fer. » Sayyiduna Ata bin Abi Rabah radiallahu anhu déclare « Ibn Abbas radiallahu anhuma m'a dit « Dois-je te montrer une femme du peuple du paradis ?» J'ai dit oui. Il a dit « Cette dame Habshi est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Je souffre d'épilepsie et mon corps se découvre à cause de cela. S'il vous plaît, faites des supplications à Allah pour moi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Si vous le souhaitez, soyez patiente et vous aurez le paradis. Si vous le souhaitez, je demanderai à Allah de vous accorder la facilité. » Elle a dit « Je resterai patiente » et a ajouté « Mais je me découvre, alors s'il vous plaît invoquez Allah pour moi afin que je ne me découvre pas. » Il a alors fait droit à Allah pour elle. Sidna Dahaq, rahmatullah alayhi, déclare « Celui qui n'est pas affligé d'une calamité ou d'un souci au moins une fois toutes les 40 nuits n'a aucune vertu à la cour d'Allah. » Mes chers musulmans, les calamités et les maladies sont une grande bénédiction. Allah Azza wa Jal pardonne les péchés et élève les rangs des affligés. En effet, qu'il s'agisse d'une maladie ou d'une blessure, d'anxiété ou d'inquiétude, d'un manque de sommeil ou d'une maladie mentale, d'un malheur causé par des enfants ou de l'absence d'enfants, d'un manque de subsistance ou d'un fardeau de dette, les musulmans reçoivent une récompense pour leur patience face aux difficultés. Adoptez la patience, peu importe la situation. Gérer les situations avec impatience ne fait que causer plus de problèmes et vous prive de récompenses. Rappelez-vous, la maladie la plus mortelle est l'incrédulité et la maladie des péchés est aussi dangereuse. Faire face aux calamités, aux maladies et aux soucis est un moyen de gagner des récompenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque rencontre des difficultés dans sa vie ou ses richesses, les cache et s'abstient de se plaindre aux gens, Allah azza wa jal lui pardonnera. » Sayyiduna Cheikh Saadi rahmatullah alayhi déclare « Un homme marchait le long de la rivière lorsqu'un guépard l'a attaqué et l'a grièvement blessé. Les gens se sont rassemblés autour de lui et ont eu pitié. Le vieil homme a dit « Ce n'est pas une affaire inquiétante. Je suis reconnaissant d'avoir reçu une blessure corporelle. Que ferais-je si j'étais affligé de la maladie des péchés ?» Numéro 1. Augmentation de la subsistance. Après avoir effectué la prière d'Isha, faites face à la Qibla en état de voudou et récitez 500 fois « Ya Musabbibal Asbab » et récitez la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam 11 fois avant et après. Cela devrait être récité dans un endroit où il n'y a pas de barrière entre votre tête et le ciel, de sorte que vous ne devriez pas non plus porter de chapeau. Les sœurs en islam devraient réciter cela dans un endroit où les non-mahrams ne peuvent pas les voir. Incha'Allah, vous n'aurez plus de manque dans votre subsistance. Numéro 2. Écrivez 101 fois « Ya Allahu » sur un papier, fabriquez une amulette et nouez-la autour de votre bras. Vous aurez la passion de gagner un revenu halal grâce à un travail autorisé. Numéro 3. Récitez 112 fois « Ya Razzaqu, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Salamu » après chaque prière pendant 7 jours, puis suppliez. Incha'Allah, vous serez libéré de la maladie et de la pauvreté. Numéro 4. Protection contre le vol. Récitez 10 fois « Ya Jalilu » sur votre richesse, votre argent, etc. Incha'Allah, il ne sera pas volé. Numéro 5. Mariage. Les femmes qui ne sont pas mariées ou si les fiançailles sont rompues doivent réciter 312 fois « Ya Dhal Jalali Wal Ikram » et supplier pour un partenaire pieux. Incha'Allah, vous vous marierez bientôt et aurez un mari pieux. Numéro 6. Ceux qui ne sont pas mariés doivent écrire 143 fois « Ya Hayyu Ya Qayyum » fabriquer une amulette et la nouer autour de leurs bras ou la porter autour de leur cou. Ils se marieront rapidement et auront un environnement familial agréable. Numéro 7. Enfant mâle. Récitez 10 fois « Ya Mutakabbiru » avant d'avoir des relations, feront de vous un père pour un fils. Numéro 8. Une femme enceinte doit placer son index autour de son nombril et réciter 70 fois « Ya Matinu ». Continuez ainsi pendant 40 jours. Par la générosité d'Allah Azza wa Jal, vous serez béni d'un fils. Il y a un remède à chaque maladie dans cette action. Quelle que soit la maladie, si un patient accomplit cette action, il sera soulagé de sa maladie, Incha'Allah. Il n'est pas nécessaire d'avoir un contact direct avec la peau. Vous pouvez toucher les vêtements couvrant le nombril. Numéro 9. Le mari doit placer sa main sur le ventre de sa femme enceinte et dire « In kana dhakaran faqad samaytuhu Muhammada » Traduction « Si c'est un garçon, je le nomme Muhammad. » Incha'Allah, un garçon naîtra. Si vous connaissez le sens du texte arabe en disant cela, il n'est pas nécessaire de lire la traduction. Sinon, l'arabe et sa traduction doivent être lus. Numéro 10. Protection contre un ennemi. Récitez « La ilaha illallahu » en abondance, en marchant, en étant assis, etc. est un moyen de protection contre un ennemi, Incha'Allah. Numéro 11. Retrouver une personne disparue, etc. et pour tous les besoins. Tout en ayant une confiance totale en Allah Azza wa Jal, récitez « Ya Rabbi Musa, Ya Rabbi Kalim, Bismillahirrahmanirrahim » en abondance, en marchant, en étant assis, etc. Que vous soyez en état de voudou ou non, récitez la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ce temps aussi. Vous trouverez la personne disparue, l'or et l'argent disparus, une voiture disparue, etc. Inch'Allah. Cette action est également bénéfique pour répondre à d'autres besoins. Numéro 12. Remède spirituel contre la magie. Écrivez 41 fois « La ilaha illallahu ». Enveloppez-le de plastique et cousez du tissu autour. Attachez-le autour de votre bras ou portez-le autour de votre cou. Inch'Allah, les effets de la magie disparaîtront. Numéro 13. Remède spirituel contre la magie. Récitez 101 fois « La ilaha illallahu » sur la personne affectée par la magie ou placez-le dans de l'eau et buvez-en. Inch'Allah, les effets de la magie disparaîtront. Numéro 14. Manque de sommeil. Si vous ne pouvez pas dormir, récitez 11 fois « La ilaha illallahu » et soufflez sur vous-même. Inch'Allah, vous vous endormirez. Numéro 15. Remède spirituel contre le cancer. Récitez la sourate Maryam au-dessus de l'eau tout en récitant la salat d'Ibrahim, autrement connue sous le nom de Droud Ibrahim, 11 fois avant et après. Le patient doit boire cette eau toute la journée. Ajoutez plus d'eau chaque fois que nécessaire. Effectuez cette action en continu pendant 40 jours. Inch'Allah, le patient sera guéri. Quelqu'un d'autre peut également réciter au-dessus de l'eau. Il n'est pas nécessaire que ce soit la même personne à chaque fois. Numéro 16. Remède spirituel contre la fièvre. Écrivez 3 fois « Ya Rafuru » sur un morceau de papier. Enveloppez-le de plastique et cousez un tissu dessus. Attachez-le autour de votre bras ou portez-le autour de votre cou. Inch'Allah, vous serez soulagé de la fièvre. Numéro 17. Remède spirituel contre l'hépatite. Récitez la sourate Quraysh 21 fois, avec Bismillahirrahmanirrahim à chaque fois. Récitez la salade sur le prophète 11 fois avant et après. Assurez-vous de réciter ceci sur de l'eau de zamzam ou de l'eau dans laquelle il y a quelques gouttes d'eau de zamzam. Buvez-en quotidiennement le matin, l'après-midi et le soir. Inch'Allah, vous serez guéri dans les 40 jours. Réciter au-dessus de l'eau une fois est suffisant. Ajoutez plus d'eau chaque fois que nécessaire. Numéro 18. Remède spirituel pour les calculs vésicaux. Écrire 46 fois « La ilaha illallahu » sur un morceau de papier et le mettre dans l'eau. Inch'Allah, en buvant cette eau, vous serez guéri des calculs vésicaux. Durée du traitement jusqu'à votre guérison. Numéro 19. Remède spirituel des maladies liées au cœur et à la poitrine. Récitez 75 fois « La ilaha illallahu » sur un enfant avec un trou dans le cœur, quelqu'un souffrant d'anxiété ou d'autres maladies du cœur ou de la poitrine est bénéfique. Inch'Allah. Numéro 20. Remède spirituel pour toutes les maladies. Les personnes souffrant de maladies chroniques doivent réciter « Ya mu'idu » en continu. Allah vous accordera une bonne santé. Regardez attentivement vos dents. Inch'Allah, dans l'intention d'obtenir une récompense, si vos dents sont sales ou jaunes, c'est une demande que vous acceptiez ces madani perles bénéfiques. Avoir des dents sales est une cause d'aversion pour les autres. Avoir les dents sales, en rencontrant les autres, ne laisse pas une bonne impression. Celui qui mâche du pain, etc., paie de l'argent pour ruiner la beauté de ses dents et être affligé d'aphte et de cancer. Nettoyez soigneusement votre bouche en utilisant un miswak. Prenez l'habitude d'enlever les morceaux de nourriture entre vos dents. Après avoir mangé ou bu du thé, etc., rincez-vous soigneusement la bouche avec de l'eau pendant quelques minutes. L'intérieur de votre bouche et vos dents seront lavés dans une certaine mesure. Votre bouche et votre gorge doivent être bien nettoyées avant d'aller dormir, sinon vos dents accumuleront de la saleté et vous développerez des problèmes de gorge. S'il y a des morceaux de nourriture dans la bouche, cela peut provoquer une mauvaise haleine et les germes de la nourriture pénètrent dans l'estomac et provoquent d'autres maladies. Les gaz odorants de l'estomac montent pendant le sommeil. Cela provoque une mauvaise haleine. Lorsque vous vous réveillez, utilisez immédiatement le miswak et rincez-vous la bouche. Inch'Allah, l'odeur nauséabonde sera supprimée. Un dentifrice bénéfique. Mettez une quantité suffisante de bicarbonate de soude et de sel dans une bouteille. C'est une poudre bénéfique pour les dents. Si vous l'appliquez quotidiennement sur vos dents, la saleté sur vos dents sera éliminée Inch'Allah. Si vous ressentez une inflammation des gencives ou n'importe où ailleurs dans la bouche, essayez d'en utiliser une plus petite quantité. Si la difficulté persiste, essayez une autre méthode de nettoyage des dents. Madani Perle. Toute forme de propreté est une sunna et encouragée par la sharia. Sallu ala al-habib, sallallahu ala Muhammad.